je regarde un peu en arrière, les 30 ans que j'ai passés ici, ce qui a changé. Il y a des choses qui ont changé en mal, bien sûr. Pour donner un seul exemple, c'est bon, la fréquentation des églises et la messe dominicale. D'un autre côté, il faut tout de même pas oublier non plus que la liturgie d'aujourd'hui dans les paroisses n'est pas comparable avec celle d'il y a 50 ans ou 30 ans. Et d'autre part, par exemple, ce n'est plus un catholicisme sociologique qui se transmet presque par les liens du sang. On était automatiquement catholique quand on naissait dans une famille catholique. C'est plus le cas. C'est beaucoup plus personnel comme choix. Mais il y a donc chaque fois dans l'ombre, comme les nuages, et quand le soleil se trouve derrière les nuages sont noirs, mais tout autour, il y a toujours une frange de lumière. Alors je crois que dans toutes les évolutions, il y a des choses sombres, mais il y a toujours un côté d'espoir aussi. Il ne faut pas désespérer. Il y a des choses qui s'améliorent et qui s'améliorent sensiblement.
Durant ces 30 ans, il y a une société qui a beaucoup évolué et la Belgique n'a pas fait exception. Je pense à des thèmes comme l'euthanasie, l'avortement. Ce sont des choses qui vous dérangent, je suppose, comme homme d'église.
Oui, ce sont des choses déplorables, hein, mais je crois que c'est à peu près comme dans toute l'Europe. Pour le moment, il y a une vague de législations qui vont à l'encontre de la morale, et pas seulement la morale catholique, mais je dirais la morale naturelle. C'est un peu partout. Évidemment, il faut faire une distinction entre l'ordre moral et l'ordre légal. Ce n'est pas parce que la loi permet dans certaines circonstances l'avortement, par exemple l'euthanasie, que ça change quoi que ce soit à l'obligation morale de protéger la vie. Ça veut dire qu'on peut protester et surtout montrer l'exemple, nous les chrétiens, que nous ne sommes pas d'accord avec ça et que nous protégeons la vie et nous favorisons la vie. C'est ce que nous faisons.
Durant votre jeunesse, votre enfance, je dirais que toute la Flandre, votre région d'origine, mais aussi toute la Belgique, respirait le christianisme. Aujourd'hui, d'autres religions ont émergé. Comment se passent ces rapports et comment avez-vous vécu ces 30 années de changement à ce sujet-là également ?
C'est l'islam, je crois, qui pour le moment, surtout dans les grandes villes comme Anvers et Bruxelles, Malines, les Gand, celle-là, il y a une forte population islamique qui est entrée dans les derniers demi-siècles, disons 30 ans. Et c'est là que je trouve évidemment le changement de climat. Le protestantisme et l'orthodoxie sont assez peu nombreux ici dans le pays. Il y a quelques libres penseurs, mais question d'organisation, c'est pas encore 1% de la population, je crois. Mais il y a une sorte d'indifférence, c'est vrai, comme dans beaucoup de pays en Europe. Même si je suis convaincu, et j'ai les preuves, que sur le fond de l'âme, surtout en Flandre, par exemple, il reste un réflexe profondément chrétien. Mais quant à la pratique dominicale régulière, c'est autre chose. Mais le réflexe moral reste tout de même profondément pénétré par le christianisme.
Je vous sens un peu désabusé, comme un peu triste de cette situation.
Évidemment, mais elle ne fait pas exception. Ce n'est pas uniquement la Belgique qui connaît cette situation. Je crois que nous allons vers un christianisme où le choix personnel et les petits groupes, par exemple en France aussi, peuvent avoir une énorme influence. C'est la loi de la levure dans la pâte. D'ailleurs, nous avons commencé comme ça avec les Christins, nous avons même commencé avec un seul et encore crucifié.
Vous avez placé beaucoup d'espoir dans les jeunes, justement, de Belgique. Encore cette année, la Belgique a eu ce grand rassemblement, justement, de Thésée. Est-ce que, là aussi, il y a de l'espoir encore ? Vous êtes un homme d'espoir ?
Oui, parce que je n'écrirai pas un fascicule comme le dernier fascicule que j'ai écrit sur l'espérance. D'ailleurs, le tout premier fascicule que j'ai publié à 32 ans, quand j'étais encore à Anvers, s'appelait « Du ministère de l'encouragement ». C'est exactement la même tonalité. Je n'ai pas changé en 30 ans. Pour les jeunes, ben, nous avons eu Thésée il y a exactement un an maintenant, à Noël, qui était tout de même quelque chose d'extraordinaire. Nous avons eu la canonisation du père Damien, qui a ici fait l'unanimité dans le pays, même chez les non-croyants. Tout n'est pas négatif, vous savez. Je ne suis jamais désabusé. C'est simplement prendre courage dans notre foi qui a vaincu le monde. Ça, c'est pour moi, je ne vais pas être pessimiste pour la culture chrétienne, loin de là.
Vous parliez tout à l'heure d'églises de plus en plus vides. Est-ce que ce rapport à la messe dominicale, où cette messe était après Vatican II dans une dimension de plus en plus de l'horizontalité, je dirais, est-ce que tout cela a changé? Est-ce que l'on retourne? Est-ce qu'il faut favoriser, selon vous, de nouveau une verticalité?
Je crois qu'il faut peut-être de nos jours un peu plus insister sur la verticalité. Elle n'est pas absente. Ça, c'est pas vrai qu'elle est absente. Mais je crois que la convivialité et l'horizontalité a pendant un certain temps tout de même prévalu. Mais c'est toujours comme ça dans l'histoire de l'Église. Il faut toujours faire des manœuvres de correction. Eh bien, cette fois-ci, c'est celle-là plutôt qu'il faut faire. Tandis que le Concile Vatican II a dû faire la correction inverse. C'est de souligner l'aspect communautaire de toutes les célébrations liturgiques. Puis les églises vides, c'est beaucoup dire. Lors des funérailles, par exemple, les églises sont archi-pleines. Et même aux grandes fêtes comme Pâques, Noël maintenant, et la Toussaint le 15 août, ben, c'est tout de même, les églises sont remplies. Venez toujours la nuit de Noël à la cathédrale de Bruxelles, par exemple, vous trouvez une église bondée. C'est relatif, hein. C'est la pratique dominicale régulière hebdomadaire qui souffre.
Dans votre dernier livre en date qui vient de sortir, Confidence d'un cardinal, vous parlez entre autres choses, vous parlez de beaucoup de choses, mais des personnalités importantes que vous avez rencontrées dans votre vie. Je pense au roi Baudouin, aussi à Benoît XVI, bien sûr, le pape actuel, mais aussi à son prédécesseur Jean-Paul II, qui vient d'être déclaré vénérable. Quel souvenir avez-vous de Jean-Paul II?
Un pape qui avait un prestige extraordinaire. Il a mis l'Église de nouveau sur la carte. Le nombre de fois qu'il est allé à l'étranger, qui a été reçu par tout le monde d'ailleurs, qui était important dans ce monde, je crois que c'était un tout grand pape. Pour moi, athlétique au point physique, mais aussi au point spirituel et moral.
Vous allez donc quitter vos fonctions. Vous avez déclaré à qui disait, au fait, ça va être très difficile parce que le cardinal Danels est en quelque sorte irremplaçable. Vous avez rétorqué, non, personne n'est irremplaçable.
Non, parce que les cimetières sont pleins de personnes irremplaçables. Celui qui va me succéder, qu'il soit lui-même et qu'il utilise ses propres charismes et ses propres dons. Il ne faut jamais vouloir imiter son prédécesseur, je ne l'ai pas fait non plus. Il faut être soi-même. D'ailleurs, il est bon que dans la succession, dans l'Église et dans un diocèse, il y ait des variations, hein, parce que nous ne sommes pas une dynastie de père en fils. Je crois que l'important, c'est qu'il soit un homme de Dieu et un homme des hommes.